The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha, 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 funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie. Bienvenue, Aurore, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes repartis pour une nouvelle édition de Série Folie. C'est le 27e
oui,
épisode de la saison 5. On va aborder plein de belles choses aujourd'hui, mais on va commencer comme d'habitude par une revue de deux séries que tu as pu visionner, une plus récente et une plus ancienne.
C'est exact.
Et tu vas nous en donner ton avis. On t'écoute.
Voilà. Alors, je vais commencer par la nouveauté. Il s'agit d'une série dont j'ai vu, je crois, 5 épisodes jusqu'à présent. Donc, la saison n'est pas encore finie et elle n'a pas débuté il y a si longtemps que ça. C'est un drama proposé par ABC, donc un drama de network, et ça s'appelle For the People. C'est un drama qui nous fait suivre des avocats et des procureurs, en tout cas de jeunes diplômés plutôt bien placés, hein, qui ont réussi à se faire accepter dans... Alors, je ne me souviens plus c'est quoi le lieu, mais ça a l'air d'être, en tout cas pour les hommes de loi, les hommes et les femmes de loi, quelque chose de très prestigieux.
Un peu l'élite, quoi.
Voilà. Et certains sont là pour devenir des avocats, et donc dans un certain nombre de cas, des avocats commis d'office. Et puis, il y en a d'autres qui sont là plutôt pour poursuivre les personnes, donc du côté plus du procureur. On commence comme ça, en suivant simplement ces jeunes qui débarquent pour la première fois, ce qui nous permet de découvrir les lieux et le fonctionnement de cette institution très très digne, pas à pas. C'est un procédé assez classique, mais qui, ma foi, marche toujours et est toujours assez pratique quand on doit faire découvrir quelque chose qui peut paraître mystérieux, hein, à ceux qui n'y sont jamais rentrés. Comme je l'avais dit, on a trois personnages qui sont d'un côté, trois personnages qui sont de l'autre, en tout cas je crois, et on a une mixité assez grande, autant au niveau des genres, on a autant de personnages féminins que masculins, et on a aussi une certaine diversité au niveau des origines ethniques, donc on sent que il y a eu une volonté de ce côté-là d'avoir un casting assez diversifié, quoique, forcément, étant donné qu'il s'agit de l'élite intellectuelle des hommes et des femmes de loi, on imagine que la diversité s'arrête là quand même. Même si on va découvrir sans doute aussi petit à petit qu'ils ne viennent pas tous forcément du même milieu social, hein. C'est pas du tout ça que je voulais dire.
Bon, mais alors, quelle est l'intrigue autour de cette élite judiciaire ?
Alors, étant donné qu'il s'agit d'un drama de network, on va suivre épisode après épisode des histoires plutôt bouclées. Hein, à chaque fois, sur l'épisode, on va avoir deux ou trois cas qui seront traités, puisqu'on a quand même beaucoup de personnages à suivre. Souvent, il y en a... Un qui voit l'affaire du côté de la défense et l'autre du côté de la poursuite, de la prosecution, je ne sais pas comment on dit.
Oui, la poursuite, tout à fait.
L'instruction de l'affaire, en tout cas. Donc, voilà, ils sont, on suit un petit peu les enjeux des deux côtés. On suit aussi les stratégies qui vont être adoptées. Et puis, on suit un petit peu leurs affaires personnelles également en parallèle. Mais je dois dire que même si... on pourrait avoir l'impression que deux, trois affaires sur un épisode, ça paraît quand même un peu beaucoup, un peu lourd, etc. Jusqu'à présent, ils s'en sortent plutôt pas mal. À chaque fois, à la fois, on ne s'ennuie pas pendant les épisodes et à la fois, on n'est pas perdu non plus, on ne se sent pas surchargé d'informations. C'est, je dois dire, assez bien mené.
Alors, est-ce que c'est un Law and Order rajeuni ?
Alors, c'est pas à ce point-là, même si, ben, forcément, si on estime que le fait de moderniser va un petit peu changer les choses, on pourrait se dire pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Pour une raison principale qui est que, un petit peu comme certaines envolées devant le tribunal que pouvait nous offrir McCoy, on va avoir quand même des morceaux de discours très très idéalistes sur ce que doit être la justice, sur ce que doit être le travail d'avocat ou le travail de procureur, etc. Et donc, malgré tout, on est sur une forme très très idéaliste, une vision assez positive des institutions, quoi. Et donc, pour ça, on pourrait dire qu'elle est un petit peu dans la lignée. Pour te dire, au départ, étant donné qu'on suit des jeunes, un casting assez divers, comme je l'ai dit, qui débarquent dans un milieu judiciaire, ça m'avait davantage fait penser à How to Get Away with Murder, que j'avais très vite abandonné parce que justement, il y avait pas du tout ce côté très idéaliste, mais ça me semblait beaucoup plus cynique que ça. Et donc, j'avais un peu peur qu'on se dirige vers ça, et c'est pas du tout le cas. On a le casting qui ressemble, mais par contre, on a un propos qui va plutôt aller du côté de Law and Order, en effet. Même si, ben, forcément, on a plus de diversité, on a plus d'histoire aussi, on n'a pas le côté policier.
C'est ça, il n'y a pas la partie enquête.
On n'a pas ça du tout. Et même souvent, enfin, on ne va pas aussi profondément dans les affaires que ne le faisait Law and Order quand même. Hein. Ça reste relativement superficiel. Ce sont à chaque fois plus des excuses justement pour discuter un petit peu des valeurs et des principes sur lesquels on fonde notre fonctionnement, en l'occurrence surtout leur fonctionnement, vu que c'est un fonctionnement très américain de la justice, hein, mais c'est vraiment plus ça qui semble intéresser les scénaristes jusqu'à présent. Et ça me plaît beaucoup pour le casting, parce que je les trouve tous assez vite, je les ai tous trouvés très sympathiques, et donc ça, c'est assez plaisant de les suivre. Il n'y en a aucun que tu détestes en te disant « celui-là, je ne peux pas le supporter, chaque fois que je le vois, j'ai envie d'éteindre ma télé », pas du tout. Ils sont plutôt gentils, hein. Il faut avouer que ils n'ont pas énormément de profondeur non plus, hein. Mais c'est... je dirais c'est bienveillant, quoi. C'est vraiment une série bienveillante et ça fait du bien, il n'y a rien à faire. Donc voilà.
Bah oui, côté profondeur, peut-être que le fait qu'il traite quand même trois plus ou moins cas par épisode ne permet pas d'aller justement dans cette profondeur.
Oui, bien sûr, mais comme je l'ai dit, probablement aussi que c'est pas le propos principal, c'est pas une série d'investigation qui va aller chercher à nous donner des informations très précises sur la situation des États-Unis aujourd'hui, quoi, hein. C'est plus une manière de réfléchir aux valeurs qui nous guide et puis de voir comment on se situe par rapport à ces valeurs, quoi.
Voilà, on rappelle le nom de cette série.
Ça s'appelle For the People.
Bien. Alors, la deuxième série.
Alors, bon, j'ai appris est-ce que c'est à mon grand désarroi? Est-ce que j'irai jusque-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a appris cette semaine-ci que cette troisième saison de Ash versus Evil Dead serait la dernière. Et donc, étant donné que je suis en plein visionnage de cette troisième saison, ben, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de rendre un petit peu hommage à cette série qui, ma foi, ne casse pas non plus des briques, hein. On n'est pas face à un chef-d'œuvre.
Du grand divertissement.
Je ne dirais pas dire ça du tout.
Alors peut-être pas accessible à tout le monde non plus.
Non, clairement pas accessible à tout le monde. J'imagine qu'il y a énormément de gens qui pourraient se retrouver très choqués face à certaines
scènes,
certaines scènes de cette série. Mais...
Et tu dis que tu es en train de regarder, ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore terminée?
Non, elle n'est pas encore tout à fait terminée.
Moi, on me l'avait vendue comme ça, donc voilà.
Oui, non, il reste encore, je crois, 2 épisodes à regarder. Toujours est-il que c'est une série vraiment où, au premier abord, c'est très très con, quoi. Les personnages sont très très cons, les intrigues sont relativement cons aussi, l'ennemi entre guillemets qu'ils sont censés combattre, ça vole vraiment pas haut non plus, mais en même temps, alors que tu pourrais te dire régulièrement, pourquoi continuer à regarder ça, finalement ça ne m'apporte rien. Malgré tout, j'ai l'impression qu'à quasiment à chaque épisode, je suis tellement surprise par l'inventivité des trucs gore qu'ils sont capables de nous inventer que je me retrouve à me bidonner devant ma télé. Et donc voilà, rien que pour ça, je trouve que ça vaut la peine. Des séries qui sont dans l'inventivité à ce point-là. Alors clairement, ils lâchent tout, hein. Ils n'ont peur de rien. Et ça, bah, ça fait plaisir. Tu vois qu'ils s'amusent et moi je m'amuse avec eux. Je suis pas sûre qu'on soit énormément à s'amuser, mais au minimum, si vous aimez les trucs un petit peu gore, ça peut valoir la peine d'aller voir à quoi ça ressemble, quoi.
Voilà, si vous aimez le sang ou l'hémoglobine à profusion sur les écrans, mais de manière, pour les personnes habituées aux films vraiment d'horreur, là, c'est vraiment bon enfant, hein, clairement.
Oui, oui, c'est ça. Ça, à aucun moment, ça ne fait peur. Ça fait vraiment rire. Et moi, c'est ça qui me plaît, hein. J'aime pas trop avoir peur, en fait. L'angoisse, c'est pas pour moi. Mais là, c'est plus que de l'hémoglobine, tu vois, c'est vraiment voir des corps maltraités jusqu'à des limites que tu n'aurais jamais pu imaginer, quoi. Tu vois tout et n'importe quoi.
Mais oui, mais sans frein, et c'est ça qui fait qu'au final, on comprend qu'il y a une part d'humour, finalement, il y a un clin d'œil, quoi, voilà.
Oui, oui. Donc voilà, une série qui aura diverti pendant 3 saisons, ben elle a fait le taf finalement, et donc c'était peut-être l'occasion de lui dire au revoir.
Elle va nous manquer, et Dieu sait si elle sera remplacée par quelque chose de bien dans le même style, mais bon.
Oui, ça,
On verra. Pas gagné.
On verra.
Merci Aurore pour ce début d'émission. On va déjà marquer une petite pause musicale.
Oui, on va s'écouter In the Sun de Joseph Arthur, entendu dans Scrubs.
I picture you in the sun, wondering what went wrong, and falling down on your knees, asking for sympathy, and being caught in between all you wish for and all you see, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you always. May God's love be with you. I know I would apologize if I could see your eyes, 'cause when you showed me myself, you know I became someone else. But I was caught in between all you wish for and all you need. I picture you fast asleep, a nightmare comes, you can't keep away. May God's love be with you always. May God's love be with you. May God's love be with you. May God's love be with you. 'Cause if I find, if I find my
suite de Série Folie. Nous revenons avec un sujet du jour. Aurore, quel est-il ?
On va parler de la nature aujourd'hui.
La nature, alors rassure-moi, ou pas, on va parler écologie, non. Plus la représentation de la nature à la télévision.
On va pas vraiment parler d'écologie aujourd'hui, non. Mais c'est vrai, ceci dit, qu'on en parle très peu dans les séries télévisées aussi, même si... Par-ci, par-là, on a quelques allusions malgré tout. C'est pas un sujet qui est en première ligne des préoccupations.
C'est ça, c'est pas vendeur.
C'est réel, hein. Oui. Bref, non, on va parler de la nature au sens très large. Tu vas le voir. Et on va commencer tout de suite en parlant de la nature, en tant éventuellement que de décor, puisque ben, on peut imaginer que c'est, ce serait sa première fonction à la nature, c'est servir de décor à un certain nombre de séries. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que quand on a des séries qui se filment en pleine nature, dans des grands espaces, ça se ressent très vite. Hein, on voit assez rapidement la place quand les budgets ont été mis sur ce genre de détail, entre guillemets. Le décor, c'est peut-être pas ce qui est essentiel pour raconter une histoire, mais malgré tout, ça fait beaucoup.
Alors, quand tu parles de budget, qu'on soit clair, se payer la nature, ça coûte pas nécessairement cher comme décor, c'est le fait d'aller jusque-là, d'être sur place.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et puis, faire face éventuellement à des intempéries qui permettent pas de filmer quand tu veux, comme tu veux non plus. Enfin, oui, il y a plein
c'est un défi. Ouais.
C'est un certain défi et c'est pas pour rien que la grande majorité des séries sont quand même filmées dans
des studios
quoi,
bien au chaud, même quand il neige, voilà.
Exactement. J'aurais tendance à dire que puisque c'est si facile finalement de filmer en studio, même si ça donne pas forcément le même effet, hein, on est d'accord. Au minimum, j'ai l'impression que quand on le fait, c'est qu'on a quelque chose à en dire. C'est jamais gratuit d'aller filmer une série dans des décors un petit peu plus vastes, un petit peu plus sauvages aussi, parfois un petit peu plus naturels. Ça n'est jamais neutre. Ça signifie beaucoup de choses. Et on va essayer de voir éventuellement ce que ça pourrait signifier. Mais avant ça, on peut déjà constater que la nature, même en dehors de ces grands espaces qui peuvent parfois nous être offerts, alors il faut bien l'avouer, plutôt par des séries à gros budget, hein, parce que justement ça coûte quand même assez cher. Les simples quelques détails peuvent quand même changer beaucoup de choses. Quand tu regardes dans certaines séries, le temps qu'il fait, par exemple, on peut considérer que le temps qu'il fait, ça fait partie de la nature, en tout cas, je crois. Mais le temps qu'il fait, déjà rien que ça change énormément l'ambiance que va installer une série. Hein. On a tous en tête l'ambiance d'un The Killing par rapport à l'ambiance de Breaking Bad, c'est pas exactement la même. Quoi.
Il si manque de soleil dans l'une des deux et ça amène quelque part à la lourdeur au récit et à ce qui est montré et à l'histoire en elle-même.
Oui, c'est ça. On sent que en tant que toile de fond, en tant que telle, même quand on est plutôt dans des décors urbains, eh bien, la nature peut parfois, malgré tout, s'inviter et jouer un rôle dans une série. Alors, comme je l'ai dit, il y a aussi une notion d'espace qui est assez importante. Ça va pas du tout donner la même impression quand tu sens que tes personnages, qui parfois font semblant qu'ils sont dans des très vastes espaces, sont en fait toujours confinés à revenir au même endroit. Il y avait parfois beaucoup cette impression-là quand je regardais encore à l'époque, ça fait quelques années que j'ai arrêté Once Upon a Time, où on sentait qu'ils devaient tourner toujours autour du même buisson, quoi, les personnages. Donc ça faisait quand même un petit peu bizarre. Tu vois.
Parce que moi, j'ai pas vraiment suivi avec précision à ce point-là, les décors, ça m'a jamais marqué, mais bon, ouais,
oui,
ok.
Mais
à regarder moi, avec cette deuxième lecture, peut-être que c'est plus marrant encore.
Oui, c'est ça. En tout cas, oui, c'est pas une des séries qui a le plus brillé pour ses décors. Et par contre, il y a d'autres séries qui nous ont offert quand même de vrais grands espaces où ça sent qui sont nécessaires. Hein, quand il y a un certain nombre de séries, quand tu veux situer ta série dans un milieu plus rural, plus Amérique profonde, mais si tu le fais en étant dans un petit studio, ça ressemble pas à grand chose. Souviens-toi de la série The Ranch, dans laquelle ils étaient censés être dans un ranch, mais ils étaient manifestement dans un studio.
Hyper étroit.
Ça gâchait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était quand même un petit peu bizarre. Et donc il y a un certain nombre de séries, dès qu'elles ont envie un petit peu de nous montrer autre chose que les villes, mais elles vont devoir mettre quand même un petit peu de budget pour sortir de temps en temps. Ça peut être utile. Donc voilà, ça c'est une première constatation. On peut constater aussi que la nature, parfois, elle va s'inviter dans les séries en tant qu'élément perturbateur dans l'histoire elle-même. Alors, ça n'arrive pas forcément très, très souvent, hein, mais parfois, sous la forme d'un ouragan, par exemple, sous la forme éventuellement d'une épidémie, d'une maladie dont on ne sait pas trop d'où elle vient, si elle est naturelle ou pas tout à fait d'ailleurs aussi, ou bien d'animaux dangereux, etc. La nature peut parfois s'inviter là aussi dans des séries qui sont pas forcément dans des décors très très naturels à la base, qui se situent plutôt en ville. On remarquera d'ailleurs au passage que la grande, grande, grande majorité des séries se situent quand même toujours en ville. Hein. Il y a quelques saisons, on avait d'ailleurs fait un épisode consacré à ça, au fait que aux différentes villes dans lesquelles les séries pouvaient se situer. Quand on regarde, que ce soit les sitcoms ou la plupart des grands drames auxquels on a été habitués, mais il se situe plutôt dans un environnement très, très urbain, et même on est plutôt dans les très grandes villes américaines, celles qu'on va repérer assez rapidement, presque au premier coup d'œil, on sait dans quelle ville plus ou moins on se situe, quoi, hein. Donc de temps en temps, donc, même dans ces milieux-là, on a la nature qui s'invite un peu comme une surprise. Comme j'avais dit, le cas de l'ouragan, je pensais notamment à la série Superstore qui, justement, un petit peu sorti de nulle part comme ça, nous a offert un ouragan pour clôturer, je crois que c'était sa saison 2, qui était une manière assez cocasse de terminer la saison sans trop savoir si quoi que ce soit allait pouvoir être reconstruit, si la saison une autre saison allait suivre. Donc ça c'était plutôt bien vu. Plus récemment, là, il y avait dans un épisode de Young Sheldon aussi une intrigue autour d'un ouragan qui permettait de dénouer l'histoire de l'épisode. Donc là, c'est encore plus restreint. Mais donc, la nature, de temps en temps, peut jouer son petit rôle, même si, avouons-le, elle n'est pas hyper présente non plus. Et ça se voit notamment à travers la présence de l'animal. Finalement, il n'y a pas énormément de séries dans lesquelles on voit des animaux. Hein. De temps en temps, il y a peut-être dans des maisons familiales un chien. De temps en temps, il y a un chat plutôt dans les appartements. Mais c'est pas, il y a pas énormément d'animaux. Alors, il y a une série quand même qui s'est plutôt fait connaître pour la présence d'animaux, c'était Zou, qui là nous offrait énormément d'animaux, des animaux dangereux en plus, hein, des animaux qui se retournaient contre l'espèce humaine. Bon, alors je m'arrête là dans ce que j'en connais, parce que de fait, comme j'ai vu que 2 ou 3 épisodes, j'en sais pas beaucoup plus, mais il me semble que c'était pas totalement naturel quand même, hein. La raison pour laquelle ils étaient aussi méchants, ces animaux, je crois que c'était quand même un petit peu dû à l'homme. Donc à chaque fois, même quand il se passe quelque chose qui est dû à la nature, une maladie ou des animaux dangereux ou ce genre de choses-là, très souvent, ça a un rapport avec l'activité humaine. Deux autres séries aussi qui sont... qui nous ont proposé un petit peu d'aborder la nature. Il y a la série Luck, dans laquelle on voyait des chevaux, et qui d'ailleurs a dû en grande partie s'arrêter parce que je crois qu'il y a un, voire plusieurs chevaux qui sont morts pendant le tournage de la série. Donc forcément, ça n'a pas joué en leur faveur. Et puis, il y a évidemment Trémé. On a parlé d'ouragan. Dans le cas de Trémé, on ne le voit pas, l'ouragan, mais il n'empêche qu'il est omniprésent. C'est la cause principale de la série en elle-même, quoi, hein. Donc, je ne voulais pas ne pas la citer. Alors, de temps en temps aussi, même si on ne sait pas toujours si c'est une cause humaine ou une cause totalement naturelle, le thème de l'apocalypse... va pouvoir être un élément narratif important, ou même parfois l'excuse pour l'ensemble de la série. Je pensais notamment à la série Me, Myself and the Apocalypse, ou un truc dans ce genre-là, qui avait eu il y a 1 ou 2 ans, qui était pas mal. Donc voilà, on a comme ça plein de séries qui vont nous offrir des petites portes d'entrée pour voir la nature, mais pas trop non plus. Il y a aussi la nature plus mystérieuse, la nature effrayante qu'on va pouvoir avoir à travers une forêt qui est presque comme un personnage en lui-même. Je pense par exemple à Dark, dans laquelle la forêt et la grotte qu'il y a à l'intérieur de la forêt est quand même particulièrement importante. Je peux penser à The Mist, dans lequel le brouillard est un personnage en lui-même, hein, quasiment.
Je ne l'ai pas vu.
Tu n'as rien manqué.
D'accord.
Voilà. Dans Game of Thrones, on pourrait se dire que l'hiver est un personnage important de la narration aussi, hein.
Winter is coming.
Mais voilà, exactement. Donc voilà, on peut dire qu'il y a quand même... La nature prend toujours une place, et parfois une place quand même assez importante.
Est-ce que je peux juste faire une petite digression sur les animaux ? On en a un peu parlé,
oui.
Qui sont un peu représentés de manière très légère. Premier exemple un peu bête, hein, vraiment, mais je pense que dans tout Broke Girl, il y a un cheval de temps en temps qui apparaît.
Oui.
Et puis ma question vient plus vers les animaux qui sont peut-être des personnages. Que penser de Lassie, par exemple ?
Oui, j'y avais pensé. C'est vrai que ça commence à dater quand même maintenant.
Oui, mais oui, mais...
Il y a une époque où, en effet, surtout des séries pour enfants mettaient en scène généralement des chiens.
Chiens, ou alors Flipper le dauphin, je suppose.
Ouais, c'est
dû
vrai,
être,
c'est vrai.
Voilà.
Fifi Brin d'Acier, elle n'avait pas aussi un animal quelconque.
C'est possible.
Pas,
alors,
un âne ou un cheval ou un truc
pour les animaux, on va aussi remonter dans le temps. Mais moi, j'adore aussi Zeus et Apollon, les deux chiens de Magnum.
Ah oui.
Voilà, tu comprends. Voilà. Les souvenirs remontent.
Peut-être que c'est presque spécifique à notre époque d'avoir finalement de moins en moins d'animaux. Hein.
Alors, une nouvelle fois, c'est la nature, hein, ce sont des animaux, je comprends bien, mais là, dans les deux derniers cas, c'est plus des personnage à part entière. Ou, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que c'est considéré comme représentation de la nature ou est-ce qu'on l'utilise plus comme moyen de récit intégral?
Surtout quand on voit finalement, ils sont tellement bien dressés qu'on se demande ce qu'ils ont encore de
sauvage ou de naturel, là,
entre guillemets. Donc voilà, mais en effet, alors à ce propos-là, il y avait une série l'année passée aussi, qui n'a pas été renouvelée, donc il n'y a eu qu'une saison, mais qui s'appelait Downward Dog, qui nous proposait comme ça de suivre le dialogue intérieur, enfin le monologue intérieur plutôt d'un chien qui nous racontait un petit peu sa vie sur un mode assez philosophico-existentiel. C'était assez amusant à regarder aussi, mais on peut quand même admettre que c'est pas si souvent qu'on en voit. Peut-être aussi pour des raisons de simplicité. Hein. C'est pas évident de filmer des animaux, j'imagine. Ça doit poser plein de contraintes également. Donc voilà. Toujours est-il, parce qu'on va quand même essayer d'avancer, que comme je l'avais dit, quand la nature est présente, c'est toujours pour nous dire quelque chose, c'est toujours relativement signifiant. Et le discours principal qu'on va pouvoir retrouver, c'est la question du rapport entre le monde sauvage, la sauvagerie éventuellement, et la maîtrise, le contrôle... qu'on peut voir dans ce sens-là, qui serait plus positif du côté de la maîtrise, ou bien dans l'autre sens, c'est-à-dire la liberté d'un côté et puis la restriction de l'autre. Hein. On peut l'envisager dans plusieurs sens. Il y a pas mal de séries qu'on pourrait comme ça aborder autour de cette question-là, notamment la série Westworld. La série Westworld qui finalement est très très intéressante par son ambiguïté sur ce thème, vu que elle va nous présenter d'énormes paysages qui nous paraissent totalement naturels, et puis dans son sous-sol en fait tout est prévu à l'avance, tout est construit, répété, etc.
Tout ça n'a plus rien de naturel, finalement.
oui, c'est ça. C'est assez intéressant comme manière de présenter les choses. Et puis, ça permet aussi d'intégrer dans la réflexion sur le rapport entre l'homme et la nature, la question de la machine et du robot à l'intérieur de ça, où se situe exactement le robot. Est-ce qu'il va se situer plus du côté de la nature en se découvrant une conscience tout à coup et en voulant se libérer, ou bien plus du côté de la maîtrise pure et simple, où l'être humain continue à avoir la main sur la machine et à en faire son outil jusqu'à la fin. Donc ça c'est une série qui me semblait intéressante sur la question de la nature. Alors il y en a d'autres, hein. J'avais pensé à Deadwood, évidemment, Deadwood qui nous propose un monde encore, enfin juste à la frontière, on sent qu'il y a encore beaucoup d'effusions naturelles, tout n'a pas été réglé, tout se règle encore très fort de manière artisanale, mais la civilisation est en train de se construire et donc la ville prend de plus en plus de terrain sur la nature, et on pourrait dire la même chose de la série Damnation dont on avait parlé la semaine passée, où là aussi on est vraiment un tournant entre un mode de vie encore très très agricole, je sais pas comment le dire autrement, et puis l'industrialisation qui va arriver et qui va tout changer, qui va changer les paysages et qui va changer le mode de vie des gens, quoi. Hein. Dans The Handmaid's Tale, ce qui est intéressant aussi, alors à aucun moment on voit particulièrement la nature, on pourrait se dire mais pourquoi elle nous parle de ça, mais on nous évoque quand même le fait que en fait tout ça est dû à une pollution qui a rendu la majorité des femmes stériles. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est que justement, ce qu'on va traiter, c'est l'absence totale de nature. Et l'absence totale de nature, c'est l'absence de liberté aussi. Et ça je trouve ça assez intéressant de s'en rendre compte, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas moyen de sortir du carcan de la civilisation telle qu'elle s'impose à nous, il y a quelque chose d'absolument étouffant là-dedans qui pourrait nous être dit en sous-texte dans The Handmaid's Tale. Une autre série qui est aussi fort sur le rapport entre la nature et puis la volonté de contrôle absolu de l'humain, c'est Manhattan qui est une série sur le projet Manhattan qui se situe en plein désert, donc on a un décor naturel, quoique très très désolé, et en même temps, on est face à des personnages qui sont dans la volonté de contrôle absolu, quoi. Donc le contraste là aussi est assez intéressant. Alors évidemment, on peut penser à Rectify qui nous fait aussi envisager une sorte de dualité entre l'enfermement totalement claustrophobique de Daniel qui a dû vivre dans une cellule reclue pendant 17 ans et puis la découverte de la liberté à l'extérieur et la beauté de la nature, de la simple rosée sur l'herbe, d'un rayon de soleil, etc. Tout paraît magnifique à travers ses yeux. Donc ça, c'était chouette aussi. Enfin, je voulais terminer avec Manhunt, Una Bomber, où là aussi, quelque part, la nature, elle a son rôle à jouer, puisque alors qu'on a l'impression de se libérer en contrôlant de plus en plus la nature, le message que nous transmet le personnage de cette série, alors malheureusement, je sais, c'est pas que un personnage de série, ça gâche un petit peu le plaisir de la découverte, mais il n'empêche que l'idée, c'est finalement, c'est peut-être en se soumettant davantage à une vie plus naturelle qu'on redevient plus libre, quoi. Et donc, ça aussi, c'était une série qui, sur la question de la nature, pouvait être intéressante. Voilà.
Bien. Deuxième pause musicale.
On va s'écouter Wild World de Cat Stevens, entendu dans Skins UK. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Smile. Oh, baby, baby.
Just remember there's a lot of bad and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. It's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
Dernière partie déjà de Série Folie pour ce soir, avec la suite du sujet abordé, on parle nature.
Oui, on parle nature et on va passer à une autre dimension de la question de la nature, c'est-à-dire cette fois-ci plus l'hypothèse de l'état de nature. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça a été, disons, une hypothèse assez prisée par les philosophes à l'époque des Lumières, à peu près, qui aimaient bien essayer de se demander, tiens, à l'état de nature, avant même qu'il y ait la moindre civilisation, comment les êtres humains s'arrangeaient entre eux pour réussir quand même à survivre et à pas se faire tuer par le premier qui passe en permanence. Donc ça, c'était l'hypothèse qui était assez prisée. Chacun avait sa manière d'y répondre. Et quelque part, les séries qui nous sont proposées actuellement, elles aussi, parfois, aiment bien jouer à cette hypothèse-là. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais alors là, cette fois-ci, c'est moins dans le cas de, tiens, remontons à la nuit des temps, et essayons de nous souvenir, pas vraiment, mais en tout cas d'imaginer comment ça se passait. Mais c'est plus, imaginons que la civilisation s'écroule pour une raison ou pour une autre, et ben, comment ça va se passer? Alors c'est le cas évidemment dans The Walking Dead, et c'est le cas finalement dans toutes les séries post-apocalyptiques, hein, comme on les appelle, où on remet un peu les compteurs à zéro, même si, soyons honnêtes, ils sont jamais totalement à zéro, hein, mais y a quand même une volonté comme ça de nous présenter un monde dans lequel il n'y aurait plus aucun contrôle, et essayer de voir comment est-ce que les humains se comporteraient les uns avec les autres, sachant que, un petit peu comme les philosophes des Lumières, où il y en avait qui étaient plutôt optimistes, qui pensaient que l'être humain était plutôt appelé à chercher la solidarité, chercher à l'harmonie avec la nature et avec les autres, etc. Il y en a d'autres qui étaient plus sur un point de vue beaucoup plus pessimiste, en se disant les hommes entre eux se comportent comme des animaux sauvages, et s'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie la plus totale. Et bien, dans les séries, c'est la même chose. Il va y avoir les séries plutôt optimistes qui vont nous présenter plutôt des hommes qui essaient de trouver des solutions, même si ça marche pas toujours, et puis des séries plutôt pessimistes, voire très très pessimistes, et qui vont nous montrer comment ça se passerait si vraiment les hommes étaient aussi dégoûtants qu'on peut l'imaginer, quoi. Donc voilà deux manières de voir les choses. Tu imagines que pour moi, The Walking Dead est plutôt du côté pessimiste. Enfin, je vois pas bien comment on pourrait le placer du côté optimiste. Hein. Je t'avouerais que j'aurais un petit peu de mal à entendre cette manière de présenter The Walking Dead. Il y a une autre série, alors cette fois-ci c'est pas post-apocalyptique, mais malgré tout les personnages sont mis en situation malgré tout d'être sans plus aucune aide de la civilisation, c'est Lost qui elle aussi a été une sorte de petit incubateur comme ça d'hypothèses sociopolitiques. Tiens, mettons un tas d'êtres humains comme ça, on les place sur une île déserte, quoique pas si déserte que ça d'ailleurs, mais ça on verra plus tard, et voyons ce qu'il en ressort. Et dans le cas de Lost, ben, c'est quand même beaucoup moins pessimiste que dans The Walking Dead, quoi, parce que malgré tout, ben, il s'organise, il y a quand même un minimum de solidarité. Alors évidemment, il y a des trahisons, il y a des trucs qui se passent pas bien et tout. On a malgré tout des individualités qui s'opposent, mais on sent qu'il y a quand même l'idée que quelque chose reste possible entre les êtres humains dans cette série-là, plus que dans l'autre. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, non, mais là, clairement, ce n'est pas la dégénérescence totale, mais bon, oui.
donc voilà, ce qui est marrant, c'est que, par contre, si on regarde du côté plus des séries historiques, des séries qui nous présenteraient plus des temps immémoriaux où la civilisation n'était pas encore aussi installée qu'aujourd'hui. Alors, c'est un point de vue qu'on pourrait remettre en question, évidemment. Mais si on regarde, par exemple, la série Viking ou d'autres séries comme ça qui vont nous présenter un monde, si même Game of Thrones, quelque part, même si au niveau de la civilisation, au niveau politique, on a une organisation, on sent bien qu'au niveau des mœurs, ils sont pas encore tout juste, mais... bon, d'accord, c'est un point de vue très subjectif,
oui.
Mais soit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces séries-là, justement, ces séries plus historiques, sont très, très politiques, par contre. Ce sont des séries qui se basent beaucoup sur les jeux de pouvoir entre les différents détenteurs du pouvoir, justement, etc. C'est beaucoup moins sur l'hypothèse vraiment de on a des individus qui ne sont rien au départ de plus que les autres et comment ça va marcher, qui va prendre le pas sur l'autre, etc. quoi. Donc ça c'est intéressant de voir que finalement pour nous le passé est plus civilisé que l'avenir éventuel qu'on pourrait s'imaginer. Donc voilà, alors évidemment il y a plein d'autres séries du genre post-apocalyptique qu'on pourrait citer. Mais il y a une autre série à laquelle j'avais pensé et qui n'est pas... Enfin oui, c'est aussi post-apocalyptique. C'est juste un épisode de la série Philip K. Dick's Electric Dreams, dans lequel on a un monde dans lequel... la civilisation s'est effondrée, mais par contre, les usines continuent à produire indéfiniment leur production, et donc on suit quelques survivants qui essaient d'aller négocier avec les machines qui gèrent l'usine, je crois, pour essayer de leur demander d'arrêter de produire des marchandises qui ne sont plus achetées par personne, quoi, ça sert à rien, c'est inutile. Et je trouve que c'était vraiment un épisode encore un de cette saison-là qui décidément m'a beaucoup plu, qui vaut la peine d'aller jeter un œil. Donc ça, je vous le conseille. Et qui par contre est sur une hypothèse totalement opposée à l'épisode de Black Mirror, où là aussi on est dans un monde post-apocalyptique, où là aussi les machines quelque part continuent à vivre alors qu'il y a presque plus aucun humain. Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode dont je parle, où là, c'est intéressant parce qu'on a dit qu'il n'y avait quasiment pas d'animaux, etc. Mais là, c'est une sorte de chien, mais
oui,
robot,
oui,
tu vois,
fait,
qui poursuit comme ça un personnage pendant tout l'épisode, qui est assez glaçant. Et on a presque l'hypothèse inverse, ou en tout cas une hypothèse un petit peu plus optimiste aussi, là, je crois, dans la série Electric Dreams. Voilà. On pourra remarquer que finalement, toutes ces hypothèses sur l'état de nature, c'est une manière de se poser des questions sur la nature humaine, hein, une nature plutôt positive et plutôt négative. Et évidemment, quand on se pose des questions sur la nature humaine, ben, y a aussi plein de séries, plus des séries fantastiques qui vont nous présenter l'être humain sous la forme de différentes créatures qui sont intéressantes aussi à citer. Alors évidemment, toutes les séries avec des vampires, avec des loups-garous, ce genre de choses-là. La série Big Mouth, dans laquelle on avait le monstre hormonal aussi, peut être évoqué. Les séries plus où on nous présente les êtres humains comme des animaux, hein, comme dans Animal Kingdom, où le titre parle de lui-même, ou bien dans Oz aussi, un petit peu, hein, où on a un petit peu des animaux en cage dans ce cas-là. Dans BoJack Horseman, là, on a quasiment que des animaux, et c'est intéressant aussi parce que c'est une manière finalement de nous montrer l'humanité dans tout le décalage qu'elle peut avoir et dans tout le ridicule qu'elle peut avoir dans sa manière de vivre soi-disant civilisée et qui en fait est plus ridicule qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, les sitcoms ont un propos souvent assez critique, hein. Beaucoup de sitcoms nous présentent leurs personnages comme étant un peu dégénérés dans leur mode de vie moderne, urbain, etc., et n'étant plus capables de faire la moindre chose un petit peu utile s'ils devaient se retrouver dans les bois ou ce genre de choses. Je pense à The Big Bang Theory, évidemment, mais même Friends ou dans Seinfeld, on a ce genre de propos-là aussi. Voilà.
Voilà. Merci Aurore pour ce beau sujet abordé aujourd'hui. L'émission se termine déjà. Je rappelle qu'elle sera podcastée dans les prochaines heures, prochains jours, via le site notamment www.seriefolie.be. Les réseaux sociaux en feront le relais. On va se quitter en musique.
On va se quitter en musique avec We Are Monkeys de Travis, entendu dans Malcolm in the Middle.
Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. People think they're funny when they haven't the wit. Others think they're gorgeous, but inside they feel shit. Many think they're brainy, but they haven't a clue. Clever, 'cause I'm singing this to you. We are wrong, we are wrong, we are all so, so wrong. We are monkeys. We are false, we are untrue. We should be in the zoo with our uncles. And if you don't believe, come and climb up a tree and you'll love it. You're a fool to believe anymore, so believe. Special 'cause they went to private zoo. One day soon they're gonna end.